Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, arrivé ce samedi matin à Goma dans le Nord Kivu, de la première vague d'une centaine de militaires kenyans. Selon leur commandant, ils viennent renforcer les FARDC sur le théâtre des opérations afin de reconquérir les parties du territoire congolais envahies par les rebelles du M23 et leurs alliés. En cette et cette mauvaise nouvelle, Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba, président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse et porte-parole du président de la République, n'est plus. Ce journaliste s'est éteint ce samedi matin à Kinshasa après un malaise à l'âge de 70 ans. L'invité de ce journal est le chef de programme et analyste pour le bureau pays du FIDA en RDC et en République du Congo. Rebecca Lukusa nous parle de la mission conjointe gouvernement et FIDA organisée dans les territoires de Kailo dans le cadre du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Arrivé ce samedi matin à Goma, dans le Nord Kivu, de la première vague d'une centaine de militaires kenyans. C'est pour renforcer les FARDC sur le théâtre des opérations afin de reconquérir les parties du territoire congolais envahies par les rebelles du M23 et leurs alliés. Dans une déclaration faite sur le tarmac de l'aéroport international de Goma, le commandant des troupes kenyanes a souligné qu'ils sont venus avec la détermination de travailler aux côtés des FARDC, avec comme objectif mettre les ennemis hors d'état de nuire et que la RDC ne puisse perdre aucune partie de son territoire. Les propos du commandant de ces troupes, Inetiene Kanulibo, ont été recueillis par Mathieu Ilunga.
Nous sommes partis des Kenyans et arrivés ici dans la ville de Goma en séjour. Ce qui nous a amenés jusqu'ici en RDC, c'est à cause de l'insécurité qui sévit actuellement dans cette partie du pays. Car il est important, quand ton voisin est en difficulté et qu'il a besoin d'une aide, il nous faut tous ensemble lui venir au secours pour que dans la région de l'Est d'Afrique, nous soyons en paix et en sécurité. C'est cet objectif qui nous amène ici. Et donc, nous avons quatre points saillants dans notre mandat. Participer ensemble avec les FARDC pour bouter dehors les forces négatives. Et nous devons assister les humanitaires dans leur travail pour aider la population locale. Autre chose concerne les groupes armés qui pullulent dans cette partie selon ce que nous avons appris. Nous devons prêter main forte aux FARDC et au gouvernement congolais dans le processus du programme de DRCS. Voilà le principal de notre mission à Goma en RDC.
De son côté, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de la 34e région, a renchéri en disant que les militaires kenyans ont comme mission de renforcer l'armée congolaise dans la reconquête du territoire occupé par le M23 et leurs alliés. En bref, João Lourenço, chef de l'État angolais, séjourne depuis ce samedi à Kinshasa. En sa qualité de médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda, le président angolais a rencontré en tête-à-tête son homologue Félix Tshisekedi. Cette visite du chef de l'État angolais intervient après la tripartite Angola-RDC-Rwanda-Luanda qui a réuni le 6 novembre dernier les ministres des Affaires étrangères de ces trois pays. En Ituri, les activités économiques et scolaires ont été paralysées ce samedi à Mandima, localité située à 6 km de Mambasa Centre. Le trafic sur le tronçon Komanda-Mambasa a été également suspendu. En cause, des jeunes en colère ont barricadé la route pour protester contre la fusillade d'un homme, des membres de leur groupe d'autodéfense par un policier. Ce jeune faisait de patrouille la nuit dernière pour sécuriser leur entité contre les attaques des rebelles des ADF actifs dans la zone. Des détails avec Isaac Remuyopi.
Ces jeunes munis d'armes blanches se sont organisés en groupes d'autodéfense conformément à l'appel du chef de l'État pour barrer la route aux groupes armés dans leur entité. Selon la cité civile locale, vers minuit, ils ont aperçu un policier qu'ils ont interpellé pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un ennemi. Ces derniers tirent pour se protéger et une balle a malencontreusement atteint l'un des jeunes qui est grièvement blessé. Ces jeunes en colère ont envahi les rues pour exprimer leur ras-le-bol. Les boutiques, les écoles, les marchés et la circulation ont été suspendus. Le président de la nouvelle société civile de Mambasa, John John Vouleverio.
Tellement que les sécurités bat record ici dans les territoires de Mambasa. Alors il fallait que les jeunes se réorganisent pour essayer d'être vigilants au fait d'alerter aux autorités.
L'administrateur assistant du territoire de Mambasa condamne ces mouvements des jeunes qui, selon lui, ont mal interprété le message du chef de l'État. Toutefois, il déplore l'incident qui s'est produit la nuit et demande aux manifestants de garder le calme. Maxime Tshishimbi.
Le message du chef de l'État, c'est la mobilisation générale où il appelle les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Il n'y a pas de confusion à faire entre un groupe armé et le groupe de vigilance. Ça doit être organisé. Même les patrouilles des jeunes, c'est pas autorisé.
Signalons que ces jeunes blessés ont été transférés dans une structure médicale pour des soins appropriés par les autorités locales. Bounia Isakraï Moyope, Radio Okapi.
Au sud Kivu, les motocyclistes ont le devoir de contribuer à la sécurisation de la ville par le biais des alertes précoces. Le gouvernement provincial, via son ministère des Transports et Communications, organise des séances de sensibilisation à travers les trois communes de Bukavu. La MONUSCO appuie le moyen avec le moyen financier et technique pour capaciter ces motocyclistes sur l'alerte précoce. Jean Kassami nous parle de cet outil de protection des civils à Bukavu et au sud Kivu en général.
L'alerte précoce intervient avant, pendant ou même après l'événement. Cet outil consiste à prévenir sur un danger imminent, ce qui permet aux décideurs d'envisager des stratégies idoines pouvant assurer la protection de la population civile. Les motards qui circulent partout dans la ville peuvent être facilement informés de tout ce qui se passe dans tous les coins et recoins de la province. Le directeur de cabinet du ministre provincial des Transports et Voies de Communication, Bissimwa Yves.
Un motocycliste peut se retrouver ici à Ibanda et dans quelques minutes il est à Kavumu. Et chemin faisant, il est au courant de beaucoup d'événements. Des événements qui peuvent impacter sur la sécurité de notre province ou de notre ville en particulier. Et nous avons ciblé celui-ci, les motocyclistes donc, pour les former sur l'alerte précoce. Dès lors qu'il est au courant d'un événement qui peut impacter sur la sécurité de la ville ou de la province, nous les formons pour qu'ils dénoncent, pour qu'ils alertent l'autorité compétente en fait qu'il y ait intervention de cette dernière.
Des numéros verts de la police sont mis à la disposition des motocyclistes pour faciliter la communication en cas de situation suspecte. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Comment mettre fin aux conflits fonciers ainsi que ceux du pouvoir coutumier dans la province de l'Omami? Cette question a été au centre des discussions entre le gouverneur de cette province et les autorités des entités territoriales décentralisées. Les explications avec Esther Ndalafina.
La première action, selon le gouverneur de province, est de faire la cartographie des conflits fonciers et ceux des pouvoirs coutumiers. À cet effet, il demande aux autorités des entités territoriales décentralisées d'identifier tous les conflits et de les classifier. La province de l'Omami est confrontée à plusieurs conflits fonciers avec les provinces voisines, notamment celles du Kasaï oriental et celles du Sankoro. Ce conflit foncier est aussi identifié à l'intérieur de la province et plus précisément dans le territoire de Kamiji. Il s'observe le plus souvent lors de l'apparition des fourmis ailées dans le territoire de Kabinda et d'autres conflits concernent la gestion des terres arables. Cette province n'est pas non plus épargnée par le conflit de pouvoir coutumier. Pour le gouverneur de province, ces conflits peuvent être résolus au cas par cas après l'identification des causes à effet ainsi que de leurs auteurs. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Page noire dans ce journal, Tarsis Kasongo Mwema Yamba, président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse et porte-parole du président de la République, n'est plus. Il s'est éteint ce matin à Kinshasa après un malaise à l'âge de 70 ans. Pour Tina Salama, porte-parole adjointe du président de la République, qui confirme cette information, sa disparition est une perte immense pour la RDC et plus particulièrement pour le monde des journalistes. Écoutez plutôt son témoignage au téléphone de Paul Matendo.
Je suis foudroyée. Kasongo Mwema, c'était un ami. C'était mon deuxième papa. Vous savez, j'avais tellement de plaisir à travailler avec quelqu'un de son âge, qui avait l'âge de mon père, et de s'entendre aussi bien. Et puis, il avait une immense connaissance. Je crois que c'était une très belle combinaison, nous deux. Hein. Donc, vraiment, on va dire la vieille école, la nouvelle, les nouvelles technologies. Mais lui, vraiment, l'expérience et tout ça, le grand savoir. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu ma nomination et qu'on m'a dit que j'allais travailler à ses côtés. les premières personnes que j'ai appelées, c'était mes parents. Parce que mes parents l'aimaient beaucoup, hein, surtout ma mère. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais plus jeune, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être journaliste, ils m'ont dit, mais il faudrait écouter les grands. Donc je disais à ma mère, c'est qui les grands? Et ma mère m'a dit, mais écoute, il y a Chantal là, chez les femmes, il y a Kasongo Mwema. J'ai dit Kasongo Mwema. C'est mon triste, donc qu'il repose en paix. Je pense, j'ai une pensée, mais vraiment pieuse à maman Hubertine, son épouse et à ses enfants. C'est vraiment une perte immense pour la RDC, pour le monde des journalistes.
Le feuilleton qui oppose la Direction générale des douanes et assises et la Fédération des entreprises du Congo autour de l'installation des machines du système de traçabilité des droits d'assises dans certaines usines est loin de connaître son épilogue. Dans des mises au point rendues publiques cette semaine, les destructeurs s'accusent mutuellement de ne pas respecter la loi en matière de prélèvement des vignettes fiscales. Des détails avec Pierrot et la Mangie.
Le point de discorde entre la Fédération des entreprises du Congo fait que la Direction générale des douanes et assises se trouve dans la procédure d'installation de machines du système de traçabilité des droits d'assises dans les industries de fabrication locale des jus, limonades, eau des tables et autres. Dans sa dernière mise au point du 9 novembre courant, l'AFEC justifie son plaidoyer dans le souci de protéger l'industrie locale des effets négatifs de cette procédure et rappelle que l'Assemblée nationale, lors du vote de la loi des finances 2022, avait recommandé au gouvernement de mettre en place le système de traçabilité des droits d'assises aux frais du trésor public et non à charge des entreprises. Sans s'opposer à la réforme sur la traçabilité des droits d'assises, l'AFEC indique à travers cette mise au point qu'elle ne souscrit pas au procédé d'implémentation de ce système mis en place par la DGDA en recourant à la force et à l'imposition illégale des frais à payer. Pour sa part, la DGDA, qui estime légale sa démarche, rappelle à l'AFEC que les dispositions des différents textes juridiques portant Code des assises dispose que le fabricant est tenu d'accepter et de faciliter la surveillance ordonnée par l'administration fiscale, ne laissant de place à aucune quelconque négociation en vue de l'acceptation des installations.
Au Kwilu, l'Assemblée provinciale a adopté à l'unanimité hier vendredi la résolution portant mise en place de 5 commissions qui vont effectuer les contrôles parlementaires au sein de certains services publics de la province. C'était au cours de la séance plénière dirigée à Bandundu par le président de cet organe délibérant, Serge Makongo Kangantima, avec la présence de 27 députés provinciaux sur 48. Ces commissions vont descendre sur terrain dans les tout prochains jours pour accomplir leur mission. Des précisions avec Irène Boma.
Ces 5 commissions mises en place sont chargées d'effectuer les contrôles parlementaires d'un certain service public de la province du Kwilu, notamment au niveau du gouvernement provincial, dans les secteurs de la santé et de l'EPST, à la Direction générale des recettes du Kwilu, DGREC, ainsi que dans les services qui s'occupent des infrastructures routières. Les objectifs poursuivis sont entre autres s'assurer de la gestion et la traçabilité des fonds d'investissement du gouvernement central reçus par la province du Kwilu pour les infrastructures de base, les investissements sur fonds propres de la province, la gestion des fonds pour les vivres et non-vivres alloués par les gouvernements congolais aux déplacés de Kwamont récits au Kwilu. S'assurer du bon fonctionnement de la DGREC, des secteurs de la santé et de l'EPST, en vue de se faire une idée sur leur capacité de contribuer au budget de la province exercice 2023. Et enfin, s'assurer si les fonds disponibilisés par les FONER ont été bien utilisés. Il sied de préciser que chacune de ces commissions est composée de 9 membres et la durée de leur mission est de 10 jours. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Tchad a échappé aux sanctions du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine lors d'une session extraordinaire hier vendredi à Addis Abeba. Les 15 membres devraient trancher sur un rapport accablant contre le pouvoir de transition où le président de la commission de l'organisation Moussa Faki demandait de sanctionner les autorités tchadiennes pour sauvegarder un minimum de crédibilité à son organisation et pour être cohérent avec les autres pays africains dans le même cas. En Ukraine, les événements se précipitent d'heure en heure après l'annonce hier vendredi de la reprise de la ville de Kherson, la seule grande capitale régionale ukrainienne occupée par la Russie depuis le début de la guerre en février 2022, a été investie par les forces spéciales ukrainiennes après l'annonce par Kremlin du retrait de l'armée russe de la rive droite du Dnieper. Après Kiev, au printemps, Kharkiv, cet automne, Il s'agit là d'une nouvelle victoire majeure pour l'Ukraine, massivement célébrée dans le pays, mais avec encore beaucoup de prudence du côté des autorités.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef du programme et analyste pour le bureau du pays, pour les bureaux pays du FIDA en RDC et en République du Congo. Rebecca Lukusa nous parle de la mission conjointe gouvernement et FIDA organisée dans les territoires de Kailo, Maniema, dans le cadre du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Elle s'entretient avec Florence Kizalunga.
Madame Rebecca Lukusa, bonjour.
Bonjour.
La mission conjointe gouvernement de la RDC FIDA aujourd'hui sur la RN31 reliée à Kindu-Kailo pour se rendre compte de l'état des infrastructures routières avant le démarrage des travaux financés par le projet FIDA. Votre constant?
Oui, nous avons fait la route, la RN31. Effectivement, ce qu'on a vu, déjà il faut noter qu'il n'y a pas de trafic sur la route, dû à son état de dégradation, et ce qui entraîne les difficultés aux producteurs qui se trouvent dans cette zone d'évacuer et même d'amener leurs produits vers le centre de consommation et même vers le marché. Vu le rôle que cette route doit jouer pour faciliter l'évacuation, relier les bassins de production, relier les centres de consommation, donc nous avons compris que ça n'aiderait pas les petits producteurs qui sont les cibles privilégiées des interventions du FIDA, qui est d'investir pour la population rurale. Et donc, on a compris que le ciblage de cette route-là est pertinent.
Vu l'état très dégradé des infrastructures routières du Maniema, êtes-vous sûr que les paquets ou l'enveloppe que FIDA a donné à PADRIR suffirait pour ces travaux?
Préalablement, il y a les études qui sont prévues, les études techniques et de faisabilité qui sont prévues, qui vont être menées par le service technique de l'État congolais accrédité pour ça. Et je crois que le résultat de ces études-là orienteront les projets sur les dimensionnements du financement à allouer aux travaux de la réhabilitation, la construction, de tout ce qui est en relation avec les infrastructures routières.
Le projet PADRIR se fonde sur les acquis des projets PIRAM. Allez-vous tenir compte de certaines erreurs de PIRAM pour améliorer la qualité de service que vous allez rendre à la communauté de cette partie de la province?
Les projets PIRAM, c'est les parents du projet PADRIR. Il faut dire que PADRIR va bâtir sur les acquis, sur l'investissement que PIRAM avait amené. Aussi, il faut noter que des leçons apprises ont été tirées. Ces leçons-là, il y en a des positives et il y en a des négatives aussi. Donc, le projet PADRIR va capitaliser les leçons positives pour leur pérennisation et aussi les leçons apprises qui avaient un effet négatif, je peux dire comme ça, vont être utilisés pour ne pas commettre les mêmes erreurs.
Madame Rebecca, est-ce que vous avez tenu compte de la communauté dans l'exécution de ce projet?
Les communautés constituent une partie prenante de taille dans la mise en œuvre du projet PADRIR. Ils constituent l'élément clé. Ils vont être consultés pour toutes les activités, pour chaque étape. Ils ont le droit au chapitre, ils ont le droit à la parole. Et à travers leur représentation, déjà même dans la mission de supervision, il y a le représentant de fédération de producteurs qui accompagne la mission dans toute la zone du projet, pour se rendre compte effectivement que les desiderata, les préoccupations de bénéficiaires vont être écoutées et pris en compte. Et ils sont partie prenante, ils sont un élément clé dans la mise en œuvre, ils sont un élément essentiel sur lequel le projet va se reposer.
Alors, comme vous allez travailler avec la communauté, qu'est-ce que vous avez à dire à cette communauté par rapport au projet?
Merci beaucoup, Madame la journaliste. Pour ce faire, j'encourage les communautés bénéficiaires qui se trouvent dans les zones ciblées par les projets PADRIR d'être attentifs. Il y aura beaucoup de sessions de sensibilisation, d'information que les projets vont mener dans leur zone. Ça sera l'opportunité pour elles, pour ces communautés, de comprendre l'approche de mise en œuvre du projet PADRIR, mais aussi l'opportunité pour poser des questions sur les zones d'ombre pour s'assurer que tout le monde est sur le pied d'égalité en termes d'information et assurer l'implication et l'appropriation surtout de communautés, de bénéficiaires pour lesquels tous ces paquets, tous ces investissements sont mobilisés, ces partenaires financiers ont mobilisé de ressources financières pour les appuyer, les accompagner à lutter, à quitter le cercle vicieux de la pauvreté dans les milieux ruraux.
Madame Rebecca Lukusa, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, le chef du programme et analyste pour le bureau pays du FIDA en RDC, en République du Congo-Brazzaville. Rebecca Lukusa était avec Florence Kizalunga. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.